consacré. Voilà. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager ce moment. Un moment à la fois habituel parce que nous nous rencontrons toutes les semaines, tous les dimanches, en tant que frères et sœurs, et en même temps un moment unique à chaque fois, avec toujours une nouvelle parole du Seigneur pour nous, un nouveau contact avec lui. Et je me sens privilégié d'être avec vous ce matin. Je garde de très chers souvenirs de plusieurs d'entre vous. J'aimerais vous saluer aussi de la part de notre assemblée on a terminé, je crois, à l'heure qu'il est avec le culte ce matin, à Montélimar. Une assemblée dont vous êtes grandement redevable puisque nous vous avons fait quand même un cadeau très précieux en la personne de votre pasteur et de sa famille. Donc, c'est vrai qu'il était à L'Oriole avant d'être à Montélimar. Mais voilà, on vous en veut pas, va. Voilà, mon bonheur, c'est toi. C'était le message du psaume 73. Et je vous propose de commencer en le lisant. Donc c'est le psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. Car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Ils ont santé et en bon point, ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance comme on porte un collier et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et sur un ton hautain, ils menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi, le peuple les suit-il en buvant à longs traits leurs paroles tout en disant « Dieu, oh, que sait-il ? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il ? » Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Et si je disais « parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre, tout cela me paraissait trop injuste. Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe, en un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer, et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis, et puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer? Car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur, à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Dieu est bon. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, ça me fait plaisir. Dieu est bon. Oui, je le crois aussi. Dieu est bon, c'est comme cela que Asaph commence son psaume. C'est une base, un rappel au verset premier. En gros, il dit, d'abord je vais dire ça, et après je vais vous dire bien autre chose. Même si ce que je vais dire pose des questions sur ce constat, Dieu est bon en tout temps. Sa bonté dure à toujours. C'est un de ses attributs. C'est son essence même, c'est son ADN. Dieu est bon. D'ailleurs, l'apôtre Jean le dit dans son épître, sa première épître, « L'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Et qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Je cite encore un autre psalmiste, psaume 84, qui dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Oui, Dieu est bon. C'est un préalable nécessaire avant toute réflexion, avant toute pensée sur Dieu. Et ça serait bien que ça soit aussi un préalable pour chacune de nos journées. Ça serait bon de pouvoir se lever le matin et d'avoir comme première réflexion, comme première pensée, Dieu, tu es bon. Même la pensée populaire qui ne le connaît pas reconnaît que Dieu est bon puisqu'il parle du bon Dieu. Même dans l'inconscient collectif, Dieu est bon. Et ce verset qui a été cité tout à l'heure, sous la plume de Jérémie, dans un passage extrêmement sombre, extrêmement déprimant, où il dit tout ce qui ne va pas et tout ce qui l'accable et qui lui pèse, il arrive à un moment où il dit « Mais voici cette pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. » Alors après avoir posé cette base, on attaque les choses qui fâchent. Qu'est-ce qui se passe? Les méchants prospèrent. Asaph le constate. Asaph est dépité et en fait il nourrit une espèce de jalousie à cause de leur prospérité, à cause du fait qu'ils sont méchants et ils n'ont pas d'épreuves. Ça devrait être le contraire. Moi je suis gentil et j'ai des épreuves. Eux ils sont méchants, ils n'ont pas d'épreuves. C'est pas juste. Qu'est-ce que c'est vraiment la jalousie? Implicitement, la jalousie, c'est croire que Dieu n'est pas juste. Il a ce qu'il ne mérite pas, et moi, je n'ai pas ce que je mériterais, ou ce que je pense mériter. D'ailleurs, une petite parenthèse, heureusement que nous n'avons pas ce que nous méritons. Sinon, nous serions foudroyés sur place, n'est-ce pas? Il nourrit de la jalousie, il nourrit aussi de l'amertume à cause de la violence dont il est témoin, de leur orgueil, de leur opulence, leur méchanceté, leur moquerie et même leur menace. Mais sa force, c'est que même si c'est très dur pour lui à vivre, il peut apporter tout cela au Seigneur. Et nous pouvons apporter nos contrariétés au Seigneur. Nous pouvons les lui dire. Il nous a créés aussi avec des émotions parfois intenses qui peuvent nous submerger. Mais nous pouvons les apporter au Seigneur librement. Et puis, il se pose cette question, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur? Et là, je me pose la question de sa motivation. Pourquoi est-ce que je décide de purifier mon cœur? Pourquoi est-ce que je décide de servir Dieu? Est-ce que le but c'est de plaire à Dieu ou c'est d'obtenir une faveur de sa part? Parce que si nous disons au Seigneur, je te servirai si telle ou telle chose arrive, alors c'est cette chose-là que nous aimons. Et le Seigneur, à ce moment-là, n'est que le moyen de l'obtenir. Est-ce que Dieu est à notre service? Ou est-ce plutôt le contraire? Est-ce un test pour voir si je suis vraiment au service de Dieu? Alors personne n'aime l'injustice, et Asaph exprime ce sentiment d'injustice. Pourquoi est-ce que j'ai purifié mon cœur? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de rester innocent si c'est pour assister à ce spectacle affligeant? Les épreuves m'atteignent à moi, Et c'est vrai que dans ce texte, il y a cette tentation de se laisser aller comme eux. Pourquoi est-ce que je ne ferai pas comme eux, finalement, puisque tout leur convient? Mais il y a quand même cette lucidité de la trahison que ce serait. Ce serait injuste de suivre ce mauvais exemple, parce que je trahirais tes fils. Enfin, il découvre, dans la présence de Dieu, quand il entre dans le sanctuaire, il découvre le sort final des méchants. En pénétrant dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, sa vision s'éclaircit. Et il reçoit une autre perspective. Dieu est juste. Dieu n'est pas seulement bon, Dieu est aussi juste. Et il jugera. On le voit dans un autre psaume qui traite un sujet un peu similaire, le psaume 94, qui s'exprime de cette manière. Dieu qui châtie le coupable, éternel, Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouverne la terre, interviens et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes, tous les artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent, l'Éternel ne voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Mais Asaph, dans son constat, découvre qu'en fait, les choses vont se retourner, les situations vont se retourner. En fait, les riches sans Dieu sont sur le chemin de la pauvreté. Ça me fait penser à ce passage de l'apôtre Jacques sur les riches, n'est-ce pas? Cette pauvreté éternelle, et je pense aussi à Jésus qui a dit « Heureux les pauvres !» Mon épouse Nicole a grandi dans une famille très modeste, pour ne pas dire pauvre. Et quand ils étaient petits avec ses frères et leur maman, en rentrant de la messe le dimanche, je crois que c'est le frère de Nicole qui lui disait « En fait, Dieu doit nous aimer beaucoup parce qu'on est pauvres. » Il avait entendu à l'église certainement « Heureux et pauvres. » Mais il y a une vérité dedans. Lorsqu'on parcourt les textes bibliques, je pense aux psaumes en particulier, on voit que Dieu a un cœur particulier pour les pauvres, pour les veuves, les orphelins, pour ceux qui sont opprimés. Les riches sans Dieu sont sur le chemin de la pauvreté. Les célébrités sans Dieu sont sur le chemin de l'anonymat. Éternel, quand tu interviendras, tu les feras disparaître. Ah, c'est vrai, quand on voit les paillettes, les stars, les gens qui sont sur le devant de la scène, on se dit, ah là là, qu'est-ce qu'ils sont heureux ces gens-là. Mais quelle illusion, n'est-ce pas? Quelle illusion. Les célébrités sont sans Dieu, sont sur le chemin de l'anonymat. Parfois, quelqu'un, des enfants surtout, me demande « Est-ce que vous êtes connu ?» Alors je réponds « Je suis connu de Dieu. » Et c'est le plus important. C'est vrai. Et puis, il est question de ce rêve. Quand le rêve se termine, eh bien, tu les emportes. Vous avez déjà fait des cauchemars? Certainement. Vous savez, ce genre de cauchemar où vous êtes poursuivi par une bête terrible. Et c'est terrible de se réveiller en nage. Mais une fois qu'on est réveillé, on peut en rire. Parce qu'on sait que, c'était juste un rêve. C'était juste un cauchemar. Cette bête, elle n'a plus aucun pouvoir pour moi parce que je suis réveillé. Donc, elle n'existe même pas, cette bête. Elle n'existe même plus. Elle a existé dans mon subconscient, certainement, hein. Mais je peux en rire maintenant, parce qu'elle n'a plus aucun pouvoir pour moi. Toute la richesse du monde, la gloire du monde, sont comme ce cauchemar. Un jour, le réveil aura lieu et nous pourrons plus rien contre nous, contre notre identité de chrétien, contre notre bonheur, contre notre héritage éternel. Quelle espérance pour ceux qui sont persécutés pour leur foi, n'est-ce pas? Cette bête n'est qu'une illusion. Un jour, elle va disparaître. Asaph fait une analyse sur ce qu'il traverse comme épisode, tous ces sentiments qui se sont bousculés dans sa tête, dans son cœur. Et dans cette analyse, il dit « J'étais stupide, j'étais sans connaissance, j'étais comme les bêtes », disent certains traducteurs. Certains disent aussi « comme une brute ». Et en fait, le mot qui est utilisé là, c'est le terme « béhémoth ». Ça vous dit quelque chose, « béhémoth » On tire cela dans le livre de Job. Vous savez, à la fin de Job, quand Dieu pose les questions à Job et puis qu'il explique un peu que c'est lui qui a tout fait, et il parle du béhémoth comme cette bête puissante par excellence. Vous savez, certains traducteurs mettent l'hippopotame, parce que béhémoth en français c'est pas trop... Hein, l'hippopotame, et puis on peut imaginer, vous savez, ces bêtes un peu massives qui broutent de l'herbe, comme le buffle ou voire l'éléphant. La bête puissante par excellence, je dirais, en langage moderne, je dirais, j'étais un gros bourrin, quoi. Hein, je comprenais rien, j'étais dans mon truc. Et alors, littéralement, Asaph, il dit, j'étais béhémoth auprès de toi. J'étais béhémoth auprès de toi. Voilà ce que j'étais, quoi. Je comprenais rien. Il se reconnaît. Il pensait comme une bête, c'est-à-dire, qu'est-ce que fait une bête? Elle pense au présent. Elle ne fait pas de projet. La grosse bête, le béhémoth, l'hippopotame, le buffle, ou ce que vous voulez, pense à brouter parce qu'il a faim. Après, il va digérer. Puis il va se coucher, parce que c'est bon. Mais il n'a pas de perspective. Il n'a pas de projet. Le psalmiste va comprendre qu'il doit accepter le calendrier divin. Lui, il a des projets. Il n'est pas une bête. Dieu agira quand ce sera le moment. Dieu agira le moment opportun. Alors, on peut penser à beaucoup de personnages, et peut-être que vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre d'entre eux, dans ce sens que vous avez dû attendre que Dieu exauce telle ou telle prière. Je pense à Abraham, à Joseph, à David et bien d'autres qui ont attendu pendant des décennies parfois pour voir Dieu leur répondre. Et Asaph s'en rend compte et il prend de la hauteur. Et pour nous, c'est un exemple. Prendre de la hauteur sur la situation, particulièrement dans les temps troublés que nous traversons. Cependant, je suis toujours avec toi. Quelle grâce. Le bonheur. C'est quoi le bonheur? Vous connaissez cette chanson, hein? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur. Il est dans la présence de Dieu. Oui, il est là le bonheur. Dieu ne m'a pas abandonné à mes penchants et à mes ténèbres intérieures. Dieu est là. D'ailleurs, plus le ciel est sombre, mieux on peut voir les étoiles, n'est-ce pas? Plus je reconnais mon péché, ma noirceur, plus la grâce de Dieu peut se révéler. Je suis au bénéfice de ta présence, Seigneur. Je suis au bénéfice de ta direction. C'est toi qui diriges, c'est toi qui conduis ma vie. Et un jour, tu m'accueilleras dans ta gloire et tu es mon plaisir. Rien ne se compare à toi. Sommes-nous conscients de nos privilèges, des bienfaits inestimables dont nous jouissons, la présence de Dieu, sa direction et notre libre accès devant son trône de gloire. Quel privilège incomparable! Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Si je ne t'ai pas toi, je n'ai rien. Alors, je veux le redire avec le psalmiste et avec vous tous ce matin, rassemblés ici. Oui, Dieu est bon. Vous voulez le redire avec moi? Dieu est bon. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous voulez